Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
On va faire une petite étude et cette étude elle est inédite. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a d'inédit. Il y a un passage dans notre Bible, ça émane de Jésus, le chapitre 23 dans Matthieu. Et ce qu'il y a d'original, eh bien, c'est peut-être ce que nous avons besoin. Nous avons entendu ce cantique « Change-moi, Seigneur ». Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire. C'est certainement, eh bien, quelque chose de fréquent dans nos cœurs, des gens qui sont consacrés, qui sont tout à Jésus. Mais cette parole a été donnée à une catégorie de suivants, si l'on peut dire, mais de compagnons de route de Jésus, pas les disciples, mais ceux qui avaient de mauvaises intentions, les pharisiens, les sadducéens. Et il va y avoir finalement eh bien, ce passage que j'aimerais expliciter, parce que premièrement c'est très intéressant, c'est toujours d'actualité. Et je vais lire le passage en question, puis après nous ferons quelques commentaires. Alors, je vous ai dit, Matthieu chapitre 23, verset 1er. Il est écrit « Alors Jésus, parlant à la foule, et dit à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Aussi, ils portent de longues phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Et les premiers signes dans les synagogues, dans les synagogues, ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes, rabbi, rabbi qui veut dire maître, maître. Mais vous, c'est-à-dire nous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors je voudrais simplement donner un avant-propos, et situer le contexte dans lequel les choses ont été dites par Jésus, consignées par Matthieu. Vous avez remarqué avec moi la première pensée qui peut vous venir à votre esprit, c'est une mise en cause. Ouais. Une remise en cause des suivants de Jésus, ses détracteurs, ses adversaires, ceux qui ont de mauvaises intentions, donc pharisiens, sadducéens, esséniens, on en reparlera tout à l'heure. Parce que c'est important de savoir qui est qui. Hein. Il y a une observation à remarquer que dévoile la Bible. C'est la sévérité de Christ. Ouais. Alors, on a souvent prêché un évangile où Jésus est gentil. Il est bien, il est formidable, il est rempli de compassion. Oui, il l'est, entièrement et d'une manière universelle. Et il l'est Même si les hommes ne croient pas en lui, il l'est pour les sauver. Mais par contre, ceux qui sont rébarbatifs, ceux qui sont à l'image eh bien, de ces catégories de gens que je vous ai dit, les pharisiens et puis les autres, nous nous apercevons que Jésus va être très sévère. Il va être magnanime avec eh bien, les pauvres, les miséreux, avec les malades, avec les infimes, avec les aveugles, avec les muets, enfin bon, tout ce qu'il peut reconnaître que nous lisons dans les lignes de l'Évangile. Ça, il n'y a aucun problème. Jésus est amour, comme Dieu, son Père, est amour. Mais il y a quelque chose qui nous frappe, et ça dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus est capable de montrer un visage de grande sévérité, et avec des mots, race de vipère, muraille blanchie, serpent, fils de l'enfer. Ouah ! Alors là, on tombe dans une autre affaire. Et Jésus pourtant l'a dit. Rien à voir avec le peuple de Dieu. Mais c'est peut-être un peuple que l'on peut qualifier d'anti-Dieu. Et Jésus leur parle. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier qu'ils ont entendu la loi de Moïse, les Juifs. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ça fait des siècles et des siècles qu'ils ont roulé dans des siècles où ils connaissent parfaitement la loi de Moïse. Où Dieu est intervenu par des prophètes pour leur dire « attention, ceci, cela, etc. » Et ils n'en ont rien fait. Au contraire, ils se sont en quelque sorte encouragés les uns les autres. Et ils se sont durcis. Ils ont cautérisé finalement la blessure qu'ils avaient et ces sentiments qu'ils avaient. Alors, on va toucher ce problème parce que le texte, parce que c'est un long chapitre, le chapitre 23, vous pourrez le relire chez vous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses que je ne peux pas dire ce matin parce qu'on n'a pas le temps. Mais toujours est-il, c'est qu'il est en train de prévenir la future église quasi naissante. Elle n'est pas encore née, mais ça va venir. Et il est en train de dire, attention, vous allez voir que ce n'est pas aussi facile de me suivre. Parce que vous aimez, parce que vous aimez Dieu, parce que vous me servez, parce que vous êtes mes serviteurs, vous allez avoir en face de vous, mais alors une armée, non seulement des hommes, mais avec des esprits qui sont derrière. Et tous. Et ils vont manifester tout le mal qu'il peut y avoir à être contre la vérité, à être contre la justice, à être contre le bien. Alors, ça existait déjà dans l'Ancien Testament, dans les prophètes tels que Ézéchiel, et puis il y en a d'autres, hein, qui véritablement ont parlé avec une grande sévérité de la part de Dieu. Le relais sera pris dans le Nouveau Testament par Jésus, mais c'est quand même écrit, hein, et c'est important pour nous de le savoir. Et Jésus va dire des choses, entre autres ce que nous avons lu, eh bien, à l'encontre ou à l'adresse tout simplement des catégories d'individus qui se distinguent, oui, qui se distinguent au-dessus des autres selon leur rang. Mais c'est la société d'aujourd'hui, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Hein, selon la place, honnête ou malhonnête, selon la fonction qu'ils ont dans la société. Et c'est ce que nous constatons et nous pouvons le voir encore dans notre temps, parce que rien n'a changé. Selon les classes gouvernantes, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Dans le monde militaire aussi. Ou véritablement parce que, bon, voilà, on est gradé, on est peut-être au-dessus du panier. Ça donne des droits, hein, je peux vous le dire. Hein, surtout en temps de guerre. À travers les gens qui sont nantis. La richesse et la fortune. Mais il y en a un qui est finalement l'objet de notre réflexion ce matin, c'est le pouvoir religieux. Alors vous allez dire, mais ben moi je vous dis que ça ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas des chrétiens religieux, mais nous sommes des chrétiens qui marchons selon l'Esprit de Christ et conduits par le Saint-Esprit. C'est bien la différence. Si vous ne faites pas la différence, ça va être difficile. Hein. Oui, on n'est pas batifolé de droite et de gauche. Nous avons une affirmation, nous avons fait une confession de foi où nous appartenons à Jésus et nous prenons sa parole comme étant la vérité. Et tout notre comportement, qu'il touche la justice, qu'il touche eh bien, toutes sortes de choses, la famille, et puis tout ce qui peut être en rapport avec un comportement, un bon témoignage, une bonne réputation, eh bien, ça fait partie finalement, eh bien, de non pas du pouvoir religieux imposant qui écrase, mais d'une véritable liberté que nous avons trouvée en Jésus. C'est redoutable. Et on le voit dans l'Ancien Testament, avec finalement ce pouvoir, eh bien, des sacrificateurs, le pouvoir des scribes. Pour ça que Jésus parle de tout cela. Et si vous relisez en même temps que je parle, ben vous allez voir qu'il y avait véritablement des choses qui étaient tout à fait caractérisées. Alors, au temps de Jésus, il y a eu des générations et des générations de prêtres. Il y a eu des générations de sacrificateurs. Il y avait ce qu'on appelle les notoriétés savantes, les scribes. Ah oui, hein, ils ont fait un travail extraordinaire, mais attendez, quelquefois, ils avaient un état d'esprit qui était tout à fait particulier, hein, les scribes. Je ne veux pas que ça soit compliqué, mais c'est pourtant l'histoire de la Bible. Il y avait naturellement les pharisiens qui avaient cette particularité ou ce défaut de la scrupulosité, de la méticulosité, finalement, eh bien, à l'excès. Ah oui, vous savez, il fallait faire toutes sortes de choses, hein, faire des offrandes, etc., etc. Il ne devait pas y avoir un cheveu qui dépassait, hein. C'était comme ça. Et ils pensaient qu'avec ça, ils allaient plaire à Dieu. Alors que finalement, leur queue n'y était pas. Là, il y a tout un texte également que Jésus dit. Ça veut dire séparer, pharisiens. Les gens qui se mettent pas avec les autres, mais qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres et que les autres sont véritablement, eh bien, des tout-petits, tout simplement. Les sadducéens, ça c'était autre chose. Ils ne croyaient pas à toute la Bible. Ils ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Ils ne croyaient pas au miracle de Jésus. Alors ils avaient fait leur religion à eux. Et quelque part, eh bien, ils étaient encore aussi à part. Et c'est pour eux que Jésus est en train de leur parler dans le chapitre 23. Il y avait les Esséniens. Alors là, c'était encore le pire du pire. Oui, ils ont disparu de la circulation, on peut dire aujourd'hui. Quoique l'esprit pharisien et l'esprit sadducéen existent encore aujourd'hui, sous certaines formes, naturellement. Alors, un mot, des mots. Il est question d'une grande sévérité de la part de Dieu, mais je le concentre par rapport aux paroles de Jésus que nous avons lues. Oui, une sévérité dénonçant les travers humains. Et je voudrais ajouter ceci, pourquoi nous sommes nus convertis à Jésus-Christ? Je donne la réponse, c'est pour changer. Pour que nous puissions être des êtres changés, que nous passions par une nouvelle naissance avec les fruits de la nouvelle naissance. Alors que tous ces gens étaient religieux, ils allaient au temple 3 fois par jour, ils faisaient des offrandes, ils faisaient toutes sortes de choses pour se faire voir et se faire entendre dans les rues en priant le long des murs. Il y avait toutes sortes de choses. Ils étaient remplis d'orgueil, comme ce pharisien qui va rentrer et qui va se frapper la poitrine en disant « Seigneur, pardon, ce pharisien, il ne se frappait pas la poitrine, lui, mais il est en train de se louer devant Dieu. » Oui, je me suis trompé. Hein, il est en train de se louer devant Dieu en disant « Mais qu'est-ce que tu dois être content d'avoir un pharisien comme moi, parce que je suis meilleur de tous. » Puis il y avait le pauvre, là, qui était en train de se frapper la poitrine. Oui, j'ai inversé tout à l'heure. Et qui véritablement dit « Pardonne-moi, Seigneur. » Il déposait ses fardeaux et ses péchés, finalement, devant l'autel. Donc, le mot « sévérité » est quelque chose qui va nous accompagner ce matin, mais pas pour tout le monde. Alors, mes frères et sœurs qui avaient peur de Dieu, moi, je voudrais vous dire que vous avez tort d'avoir peur de Dieu. Parce que si vous marchez avec Dieu, que si vous aimez Dieu, si vous le servez, que vous faites, finalement, sa volonté, mais dans l'amour, en cherchant une véritable liberté, vous n'avez aucune crainte. Dieu est de votre côté. Par contre, si on joue la comédie religieuse, comme nous en sommes nous-mêmes issus, hein, moi, je n'étais pas évangélique, je ne suis pas né dans le monde évangélique, mais je suis né dans un autre monde, et je peux vous dire qu'on était ignorants à l'époque, parce qu'on nous avait privés de la Bible, parce qu'on nous avait privés véritablement de Jésus, du nom de Jésus, comme le seul et l'unique, pour nous remplacer, pour être remplacé par toutes sortes de faux dieux, de fausses déesses, et tout ce que vous voulez. Donc, il y avait quelque chose qui caractérisait les pharisiens, parce que Jésus leur a dit combien de fois « hypocrite ». Et vous savez ce que c'est qu'un hypocrite? Eh bien, c'est quelqu'un qui joue la comédie. C'est quelqu'un qui joue, eh bien, un rôle pour se faire bien voir des autres, avec toutes ces qualités qu'il met en avant, mais qui a deux visages et deux langages. Dans l'Église, dans laquelle nous sommes en tant qu'évangéliques, nous ne devons pas avoir deux langages et deux visages. Nous devons être nets. Nous devons être purs. Dans ce sens, ce n'est pas une question morale, hein. C'est une question d'identité par rapport à soi-même. Si je dis oui, eh bien je tiens mon oui. Si je dis non, c'est non, tout simplement. Et c'est ça le problème. Et l'Église a besoin aujourd'hui, dans la comédie mondiale dans laquelle nous sommes, théâtre, cinéma et tout ce que vous voulez, parce que c'est du cinéma, hein, l'hypocrisie. Hein. L'hypocrisie, c'est véritablement... C'est faire croire à quelque chose qui n'est pas réel dans, eh bien, sa nature. Et c'est ça le problème. C'est ça. Et Jésus aurait pu faire un film avec ça s'il avait été dans un autre temps. Parce que ça existe depuis les temps immémoriaux. Et nous nous apercevons que Jésus parle à ces catégories, on peut dire mentionnées. Mais même dans nos églises, faisons attention de ne pas jouer une comédie, parce que ça ne dure qu'un temps. Ouais. À un moment ou un autre, et on en a connu malheureusement des frères, on en a connu des frères et des sœurs, qui quelque part n'ont pas pu rester. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Permettez-moi de le dire, parce que c'est quelque chose de vrai qui existait du temps de Jésus, qui existait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Israël, et qui existe encore dans l'Église d'aujourd'hui, hein, l'Église chrétienne d'aujourd'hui. Je ne cite pas des déclinaisons catholiques, protestants, tout ce que vous voulez, et même en dehors du christianisme, hypocrisie. Parce que c'est un mal, l'orgueil. Parce que c'est un mal, finalement, le mensonge. Et toutes sortes, pour avoir, finalement, une bonne mine, pour avoir, finalement, eh bien, le crédit des autres en disant, et Jésus est en train de parler d'un réquisitoire, là. Dans les tribunaux, il y a, finalement, eh bien, une partie qui est le réquisitoire, où là, on va dire les choses, et puis après, il y aura le jugement, tout simplement. Alors, j'ai dit des mots, orgueil, hypocrisie, superficialité. Vous savez, les grandes choses qui se déterminent dans notre capacité d'être chrétien, un vrai chrétien, eh bien, c'est tout simplement être ou paraître. Vous savez que être, c'est plus important que paraître. Parce que c'est une mystification. Et ne nous servons pas finalement de la foi, de notre foi en Jésus-Christ, d'une connaissance de la Bible, pour tromper les autres. On n'est pas parfait. Nous commettons encore des péchés. Mais une chose qui est certaine, c'est ce désir ardent que Dieu, par le Saint-Esprit, et dans la foi, qu'il puisse véritablement nous libérer de toutes les tortuosités, de tous les méandres qu'il peut y avoir. Et si nous le reconnaissons, ben le Seigneur va nous aider. Mais si nous les cachons pour avoir bonne mine vis-à-vis des autres, ça ne sert à rien. Ça va s'empirer en tous les cas. Le monde des hommes, il est courant de chercher, parce qu'on le voit dans tous les domaines, à impressionner nos semblables. Oui, si nous avons quelques talents, quelques capacités, etc., on aime bien se valoriser en disant, ben voilà, j'ai ceci, j'ai cela, et puis tout simplement pour se donner un regard des autres sur nous. Et pour se donner donc une prétendue autorité, parce que peut-être que nous n'en avons pas. Alors, on peut jouer aussi cette comédie. De vouloir présenter des valeurs humaines, chrétiennes ou non, même aspirer à la célébrité. Oui, c'est quelque chose. Alors bon, moi je ne veux pas juger le monde, parce que bon, il y a des capacités, il y a toutes sortes de choses, et puis il y en a, c'est leur métier, enfin de toute façon. Hein. Enfin, je parle de tout ce qui est culturel et tout ça. Hein, et on le reconnaît, hein. Il y a des choses qui sont ainsi. Mais moi je pense que quand un chrétien veut la célébrité, il est véritablement en danger. Hein. Ouais. Vous savez, Simon le magicien, et puis il y en a d'autres, hein, qui ne me viennent pas à l'esprit. Hein. Même Judas. Vous savez, il voulait un petit peu briller quelque part. Hein. Ben, il n'était pas honnête. Il n'était pas droit de cœur. C'est pour ça que ce qui lui est arrivé, ben, finalement, c'était sa faute. Hein. Et nous pouvons appeler ce genre de comportement qui passe et qui... parce qu'il y en a quelqu'un qui... Il y a un adversaire qui est là pour développer. Finalement, eh bien, c'est soubassement humain, si je peux dire ainsi, hein. C'est ce caractère un petit peu comme ça. Et nous voyons que la Bible a donné un nom à un livre, c'est la foire aux vanités. Soyons ce que nous avons besoin d'être, selon la pensée de Dieu, dans la simplicité, dans la modestie, la foire aux vanités. Le monde court après ça, hein, d'une manière ou d'une autre. Souvent ça peut durer, mais quelquefois ça dure, eh bien tout simplement, la vitesse qui passe, la vitesse d'une étoile. Il est souvent illusoire à vouloir collectionner les trophées. Alors là, c'est véritablement ce que nous voyons dans le monde, dans différents mondes. Hein. Une couronne de gloire à acquérir, et qui se finit tout simplement par la gloriole. Parce que c'est de l'artificiel. C'est de l'hypocrisie, tout simplement. D'avoir une couronne de gloire, vous savez, comme les couronnes de gloire sous l'Empire romain, ça dure pas longtemps. Vous mettez une couronne de laurier, et 3 jours ou 4 jours après, il n'y avait plus rien du tout. Hein. Aujourd'hui, ils offrent de l'or. C'est quand même peut-être une autre valeur. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours quelque chose qui doit, qui veut mettre l'homme en avant, ce que nous avons besoin, finalement, d'être mis en avant. Et de pouvoir dans la vie se tracer un sillon d'élévation par les mérites en tout genre, ça c'est véritablement la caractéristique du religieux, des mérites, même dans le social. Des lieux, parce que nous avons réussi, des maisons somptueuses avec son train de vie correspondance, des génies artistiques, le championnat, la beauté, les performances qui distinguent le lauréat qui témoigne d'une certaine réussite de son existence et le classe à part du commun des mortels. On fait beaucoup de choses. Hein. Bon, dans le sport, ça peut se comprendre. Hein. Il y a quelque chose qui tout à fait légitime. Mais vous savez, quand on voit les prédicateurs, quand on voit, je dis prédicateurs parce que c'est un peu notre milieu, quand on voit des gens qui ont reçu peut-être des dons, des capacités, voilà, des choses comme ça, mais c'est peut-être pas eux qui sont les responsables, c'est les gens qui les encensent et qui font beaucoup de mal. Ah ouais, tu es le meilleur, tu es le plus grand, etc., etc. Ça, c'est dangereux. Et nous avons besoin de prier pour que, véritablement, eh bien, c'est le problème du jardin d'Éden, hein, ça aussi. Hein. C'est le jardin de tous ceux qui sont tombés et qui nous sont apportés dans le livre, dans les livres historiques de la Bible. Hein. Et oui, c'est ça ce que nous avons besoin. Quand il est donné cette parole, il faut y faire attention à tout cela. Hein. Et de vouloir sortir du commun des mortels une place au-dessus des autres, conférant le pouvoir d'un nom, d'un rang, la force d'autorité, une sélection par la réussite ou le talent, qui fait d'être une personnalité qui est convoitée, qui est regardée, qui est applaudie, qui est admirée, quelquefois même adorée et divinisée. C'est là où c'est dangereux. On parle aujourd'hui de star, on parle de Dieu, mais avec un petit dé, hein, naturellement. Ça, c'est la société dans laquelle on est. Mais faisons attention, parce que nous sommes immergés dans ce monde-là, et nous pouvons passer les frontières. Hein. Faut faire attention. Vous savez, dans l'expérience que nous avons pu faire, nous avons vu des grands hommes de Dieu. Oui, nous en avons connu, et puis même vu en chair en os. Hein. Et ils avaient un tel succès, c'est qu'à un moment donné, ils sont tombés. Ils sont tombés parce que ça ne peut pas durer. Devant Dieu, ce n'est pas possible. Et je crois que... Et des gens que nous avons connus, des gens que peut-être vous avez connus, des gens dont vous avez lu peut-être les ouvrages, les livres. Ouais, ça, il faut faire attention. C'est quelque chose de dangereux. C'est-à-dire de diviniser un homme. Vous savez, il y a toujours une part d'idolâtrie quelque part, hein, dans la vie. Je prends cette parole qui nous ramène à l'humilité. Dans Luc chapitre 14, je lis ce texte, mais ça ne va pas durer longtemps, hein. 14 verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? C'est Jésus qui enseigne la modestie et le reste. Jésus adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'ait parmi les invités, une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne à te dire « cède ta place à une personne, à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, voilà la véritable place d'un chrétien, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ça, c'est notre règle, ou chacun. Aimons la modestie. Aimons être petit. Aimons véritablement celui qui nous a donné l'exemple. Il ne s'est pas fait le plus grand, Jésus. Il s'est fait le plus petit. Il ne s'est pas fait le maître, il s'est fait le serviteur. Et ça, c'est quelque chose véritablement qui est important. Parce que vous avez la version de haut, tu te mets à la première place, mais fais attention, parce qu'en te mettant à la première place et en choisissant toi-même la première place, tu risques d'arriver à la dernière. Et là, tu vas avoir honte. Il y a eu des situations comme ça, hein, pour ceux qui voulaient, comme on dit, rouler les mécaniques. Oui, c'est un mot, bien sûr. Je voudrais donner quelques citations bibliques d'exception. Il y a trois personnages dans la Bible qui sont cités comme des hommes, non pas parfaits, mais des hommes qui ont véritablement suivi Dieu jusqu'au bout. Trois personnages. Le premier, c'est Noé. Parce que quand on voit le chantier naval qu'il a fait, hein, ça n'a rien à voir avec Saint-Nazaire, hein, mais quand on voit ce qu'il a fait, c'est que véritablement Dieu l'a distingué, et c'est la parole de Dieu qui le dit, Noé. Il y a également Job, lui pour la souffrance, et également Daniel, lui pour la prophétie. Et il y a quelque chose qui caractérisait ces trois hommes qui étaient à la fois prophètes, hein, et puis serviteurs de Dieu. Trois choses les caractérisaient, tout simplement, la chose qui les caractérisait plutôt, c'est l'intégrité de cœur. Quand on n'est pas intègre de cœur à un moment ou à un autre, ça ne va plus. Oui, ça ne peut pas aller. L'intégrité de cœur, c'est d'avoir un visage et un langage et de rester finalement dans ce cadre, tout simplement. Et puis, il y a un beau passage également qui concerne Abraham, qui véritablement a mis en avant, lui, devant Dieu et devant son peuple quelque part, le désintéressé de soi. Le désintérêt de soi. Dans l'histoire d'Abraham, Genèse, chapitre 14, quand il reviendra de la guerre, il avait toute une armée avec lui et puis des tribus qui étaient avec lui. Il a gagné la guerre sur ses ennemis. Et les ennemis sont venus voir Abraham et lui ont dit « Mais prends tout ce que tu veux, c'est toi notre chef, c'est toi notre roi. » Et il a répondu cette parole, moi j'en ai fait ma devise. « Rien pour moi. Si c'est Dieu qui me le donne, oui. » Mais moi, je ne veux pas aller me laisser influencer, être servi par les hommes, alors que si Dieu me dit non, tu ne touches pas, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose de formidable et qui distingue un véritable chrétien. Oui, rien pour moi. Il avait tous les trésors, il avait gagné finalement une guerre, un combat extraordinaire. Mais il a rendu un témoignage extraordinaire, c'est qu'il a montré à tous ceux qui étaient véritablement ses supports et ses supporters, si vous voulez, qu'il ne s'intéressait pas à cette parole, il s'intéressait à la gloire de Dieu. Et si Dieu veut vous bénir, attendez qu'il vous le donne. Attendez qu'il vous conduise. Attendez qu'il vous dise, maintenant tu peux y aller. Mais pas le prendre avant, et pas le prendre après non plus, parce que ça n'existe plus. Je reviens au chapitre 23 de Matthieu. Il est question... Et là, peut-être, nous pouvons peut-être mesurer tout ce que vous avez déjà entendu. Alors, il est dit, « Ils sont assis dans la chair de Moïse. » Alors, c'est véritablement le trône. Hein. Moïse, c'est l'homme. C'est l'homme de Dieu, hein, qui a donné la loi, etc., etc. Alors, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Hein. C'est sûr, ils connaissent ce qu'ils doivent connaître. Alors, il dira, « Mais faites donc tout ce que... » Tout ce qu'ils vous disent, observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Attention, hein, ce n'est pas les conseilleurs qui sont les payeurs de cette affaire. Ils se tiennent les maîtres à penser pour les autres, maîtres de leur conscience, des autres. Car ils vous disent et ne font pas. Vous savez, pour juger un chrétien s'il est véritablement converti, c'est qu'il fait ce qu'il dit. Ce n'est pas des choses extraordinaires que Dieu nous demande, hein. Dans nos engagements les uns avec les autres, dans notre communion fraternelle. Parce que la réponse, elle est là. Il lit des fardeaux pesants. Et ça, certaines religions que nous avons connues, c'était ça. Hein. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ça, tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas ça, tu ne vois pas ceci, tu ne... Enfin, bon, ça n'en finit pas. Hein. Et ils les mettent sur leurs épaules, hein, leurs exigences. Ils font toutes ces actions pour être vus des hommes. Si c'est ça ce que nous recherchons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, oui. Parce que si c'est pour être vu et applaudi, c'est pas la peine. Populaire ? Non. Ainsi, il porte de larges phylactères pour ceux qui ont été en Israël. C'est assez curieux, ou alors vous allez dans certains quartiers à Paris, vous les voyez, hein, avec des larges phylactères hein, sur le pantalon. Et nous voyons qu'ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes, « Rabbi, Rabbi, nous te reconnaissons parce que tu es un homme spirituel. » Qu'on n'entende jamais ça de notre part, pour nous en tous les cas. Parce que c'est pas à Dieu, c'est pas aux hommes de nous juger. C'est à Dieu qui va nous juger, tout simplement. Mais vous, vous faites appeler Rabbi, il parle aux pharisiens, hein, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. Je pense au très saint père. Excusez, hein. Je ne pouvais pas passer autrement que de le dire. Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est Christ. C'est pas le pasteur, mes frères et sœurs. Pas le pasteur. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera tout simplement élevé. L'étendue du phénomène, on peut le rajouter, dans la société d'aujourd'hui, que ce soit dans la politique. Tout va bien en politique, hein, il me semble, actuellement. C'est bien. C'est le calme plat, c'est bon, c'est bien, c'est... Il y a les coudes, hein. Bon, peu importe. Excusez-moi. Dans le culturel, oh, c'est la compétition, mais ça c'est normal, c'est le jeu, hein. Il n'y a pas de... Dans l'artistique, l'économie, vous savez que le monde n'a jamais été aussi... C'est terrible, hein. Aujourd'hui, c'est la bourse, c'est l'argent, c'est des gains, et etc. Et souvent au détriment des petits, hein. Voilà, on prend aux petits pour enrichir les grands. Il va m'arriver des histoires, moi. Je le sens. Les sciences et la pensée, conformiste, être comme tout le monde. Mais c'est bien de ne pas être comme tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que quelquefois, on a quelquefois honte du mot évangélique. Mais c'est bien qu'on soit appelé évangélique parce qu'on n'est pas comme tout le monde. On est sorti de l'océan du conformisme, c'est pas pour y retourner, hein. Sans vouloir naturellement sans prosélytisme et sans vouloir provoquer les autres, hein, parce qu'on doit laisser la liberté des choix à ceux qui peut-être entendent notre témoignage. Le domaine incriminé, et on l'a dit et je le répète, c'est le religieux dont le titre, et c'est le titre de notre message, écoutez bien, je l'ai appelé la chapelle des vanités. Parce qu'on parle de religieux, parce qu'on parle d'église, parce qu'on parle de peuple de Dieu, le peuple chrétien. Oui, la chapelle des vanités, qui est une facette de la comédie humaine. Et je vais terminer là-dessus. Facette de la comédie humaine. Normalement, ça devrait vous parler, même si les choses ne sont pas forcément bien dites de ma part, mais on vit dans ce monde-là. J'ai essayé de faire un schéma pour que vous puissiez reconnaître un peu dans quel monde on vit. Et là, vous n'avez pas besoin de chercher, de lire des bouquins et de vous d'investiguer dans ceci, cela. Vous l'avez au quotidien. Mais c'était exactement ce quotidien-là que vivait Jésus. Et dans l'Ancien Testament, les Juifs vivaient exactement la même chose. Jésus lance un réquisitoire. Maintenant, il y aura un jugement. Maintenant, il y aura le procès, le jugement. Et c'est un réquisitoire pour mettre en place toutes les choses qui sont reprochées et reprochables. Un réquisitoire sans appel, au cœur du temple. Et ces gens-là, on l'a dit, je le répète, les pharisiens, les chrétiens, les croyants dans leur généralité. Mais ils ne portent aucun fruit. Et c'est ça, justement, ce qui fait la différence. Si vous vous dites, je suis chrétien, j'ai, voilà, une église, elle est formidable, extrait, etc. Si véritablement nous pouvons discerner que nous avons reçu quelque chose de formidable, eh bien, gardons-le. Mais restons dans les normes, en tous les cas. Parce que s'il n'y a pas de fruit... Et c'est ce que Jésus a condamné chez les pharisiens. S'il n'y a pas de fruits, ça ne sert à rien. La conversion doit nous amener à produire des fruits dignes de la repentance. S'il n'y a qu'une profession de foi, s'il n'y a que l'acte du baptême, et qu'il n'y a pas les fruits, avec une vie transformée, avec véritablement un changement de notre vie intérieure, de notre cœur, de notre mentalité, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Et c'est ça les stérilités de la pseudo-religion. Quelqu'un a sélectionné les caractères du monde religieux. Et je dis bien le monde religieux, et c'était pourtant des gens qui ne croyaient pas en Dieu, je suppose. Il y a un écrivain au XVIe siècle, c'était La Bruyère. Et il a écrit beaucoup sur le caractère humain. Ouais, il a fait les choses, on a appris ça à l'école naturellement. Hein. La Bruyère. Et La Bruyère, c'était donc un moraliste, et on peut dire... Il a étudié le caractère des hommes. Alors, dans la cour de Louis XIV, c'était pas mal, hein, ce qui s'y passait. Hein. Et pourtant, il y avait la religion qui était en poupe. Le roi était véritablement le représentant de Dieu. Hein. Donc, il a écrit les choses. Moi, je me suis pas mal intéressé, parce que ça me passionnait, à cet autre écrivain, Balzac. Balzac, il a fait quelque chose de formidable. Il a fait des livres et des livres sur la comédie humaine. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de méditer tout ça quand j'étais adolescent. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et moi, quand j'ai lu la Bible, je me dis, mais il ne se trompait pas trop, hein, finalement. Hein. Parce qu'il a dénoncé la vanité du monde de son temps, c'était au XIXe siècle, naturellement, parce qu'il s'est attaqué à, tout simplement, la haute société, les princes de l'époque, hein, ils vivaient sous la Restauration, et la bourgeoisie, les commerçants, etc., et puis les miséreux de son temps. Il a écrit des choses formidables. Et quelquefois, quand on lit un petit peu Balzac, on se dit, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Et la façon dont Jésus a traité son monde, les uns d'un côté, les autres de l'autre, et puis la misère, hein, dans tout ça. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir la fortune, mais être véritablement l'homme le plus malheureux, même si on a de l'argent et tout ça. Tout ça, c'est véritablement... Et puis il y a, peut-être vous le connaissez, il est peut-être beaucoup plus connu par rapport à notre temps, hein, c'est Émile Zola. Ah, ça, c'est quelque chose parce qu'il dénonce la vie des miséreux, de la justice et de l'iniquité sociale. Et quand on voit un petit peu comment ça se passait du temps de Jésus, comment la religion judaïque traitait les hommes d'une manière ou d'une autre, c'était fou, hein. C'était véritablement quelque chose. Et ça, c'est la course aux vanités. Et quand il s'agit des choses religieuses, c'est la chapelle aux vanités, tout simplement. Et l'orgueil du titre. L'orgueil de la position ecclésiastique. Alors voilà le tableau sans concession qui se décline. Et je vais vous donner quelques mots. Ils sont choquants, hein. Mais c'est ce que Jésus pensait quand il dit « Vous êtes une race de vipères. Vous êtes ceci et cela, etc. » Parce que c'est des gens qui ne voulaient pas de Dieu et qui connaissaient la loi de Dieu parfaitement et qui l'enseignaient aux autres, mais qui ne la vivaient pas eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui a dressé le tableau quand il parle de son temps. Quand il parle de notre temps, puisque c'est quelque chose de notre temps, il a appelé ce genre de phénomène que nous trouvons tout simplement la galerie des grotesques. Et quand on voit le monde vivre, on se dit c'est grotesque dans certaines choses. Il a appelé également ce phénomène le bal des imposteurs, ceux qui jouent des coudes et qui sont prêts à tuer les autres, qui sont prêts à s'enrichir d'une manière ou d'autre et qui sont des imposteurs à la bonne tenue d'une société. L'impudence des menteurs. Parce qu'aujourd'hui, on ment finalement avec la conscience que l'on ment pour tromper les autres. Il y a le carnaval des critiqueurs et des intrigants. Oui. Il y a également la conjuration des envieux, des jaloux, des affubulateurs, les propagandistes, tout simplement de la rumeur. Mais tout ça, ça marche. Tous les outils sont là, ils sont dans les caisses, hein, pour quelque part finalement les utiliser. Les étouffeurs de conscience, eh bien, c'est le monde dans lequel on est. Quand on voit le brouillard qu'il peut y avoir, les faussaires, quand on voit que des gens maintenant sont capables de vider votre compte en banque, faites attention quand vous allez rentrer, regardez bien ce qui est sur votre compte, quelquefois il n'y a peut-être plus rien. Hein. Bon, mais toujours est-il qu'on a du mal. Il y a quelque temps, ils n'étaient pas tout à fait prêts, mais maintenant, ils sont capables de faire un tel trafic que quelque part, vous n'y voyez rien. C'est le banquier qui vous dit, ben maintenant, c'est, voilà, il n'y a plus rien du tout. Hein. C'est le monde dans lequel on est. Alors, n'allons pas dire qu'on est bien dans le monde. Un chrétien ne sera jamais bien dans le monde, à moins qu'il soit du monde, à moins qu'il vive comme le monde, à moins qu'il ait les combines du monde. Non. Moi, je pense que nous avons besoin d'être différents. Et je crois que nous n'avons pas d'excuses à être différents, parce que nous avons celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai fait une étude Vous l'avez sur le site. J'ai fait une étude sur tous les personnages de la Bible. Ça faisait un travail de 2 ans, hein, je crois. Avec tous les personnages qui étaient des serviteurs de Dieu, des hommes de foi, etc., etc. Et j'ai fait un autre passage, parce que c'était le contraire, ce que j'ai appelé les moutons noirs. Et vous avez deviné, hein, des Judas, des gens de l'Ancien Testament, enfin bon, toutes sortes de choses, il y en avait plus de 200. Il est à votre disposition, si vous voulez, hein, dans Bible Espoir, c'est les personnages de la Bible. Eh bien, quand on s'aperçoit que... Ça m'a donné un peu l'idée, finalement, de vous dire ce que je dis aujourd'hui, parce que tout le monde n'est pas chrétien, peu s'en faut, hein. Et je crois que ça, c'est important de le savoir. Sur la terre, il y a une chose, c'est que les hommes jouent des coudes, alors que dans le ciel, eh bien, il faut le savoir, lorsque nous arriverons dans le ciel, nous ne jouerons pas des coudes. Non, certainement pas. Mais nous rendrons notre couronne que Jésus nous a donnée devant le trône de Dieu pour le glorifier à jamais, pour l'éternité. C'est ça, hein. Il nous est dit dans ce texte, les hommes jetèrent, les hommes sauvés, les rachetés, on peut dire de cette manière, jetèrent leur couronne devant le trône et ils adorèrent leur Dieu sauveur. C'est dans l'Apocalypse, tout ça. Hein. Une dernière chose, la vanité des privilèges et des mérites, le mensonge du succès, parce qu'un succès n'est pas forcément un succès, un échec n'est pas forcément un échec avec Dieu. Ça peut changer les choses. Parce que vous savez la suggestion que Jésus a eue dans le désert, les 40 jours dans le désert, la deuxième tentation, c'est que le diable est venu le voir et il lui a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et toutes ces richesses qui existent sur la terre. Attention, il y a des séductions, il y a toutes sortes de choses. Je pense, mes frères et sœurs, que vous n'êtes pas fatigués d'être chrétiens. Parce que le vent souffle peut-être pas assez fort. Parce que vous espérez quelque chose et que vous n'avez pas encore. Mais ce n'est pas en grognant, ce n'est pas en maugréant que vous allez l'avoir. C'est tout simplement en vous mettant au diapason avec la pensée du Saint-Esprit, la pensée de Christ et à la ressemblance de Jésus. C'est là où Dieu bénit ses enfants et que l'on peut reconnaître un vrai d'infos. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intégrité du cœur. Quand il est dit cette parole, tout simplement, ne faites rien par esprit de parti, même entre nous, hein, et par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oui, mon frère est supérieur à moi. Si je considère que je suis supérieur à lui, c'est perdu. Fini. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'espère que c'était un petit peu, pas trop fatigant, pas trop compliqué, mais toujours est-il que c'est vraiment le regard que nous pouvons avoir dans le monde. Alors sachez que nous ne faisons pas partie du royaume du monde ou des royaumes du monde, mais nous faisons partie du royaume de Dieu, et bientôt des cieux, pour définitivement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, parce que nous avons accès, en effet, sur ce phénomène humain, cette comédie humaine, pour voir, en effet, qu'il y a les réalités qui nous viennent du Saint-Esprit, de l'exemple de Jésus, de ta parole qui nous enseigne. Et puis il y a le monde que nous pouvons dire qui ne connaît pas Dieu, le monde de l'ignorance de Dieu, le monde, en effet, eh bien, qu'il y a derrière cette vie une autre vie éternelle. Et nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, parce que nous voulons, en effet, eh bien, doter ce message d'un titre, non pas la foire aux vanités, ça c'est le monde, mais c'est la chapelle aux vanités, et que dans l'Église, eh bien, comme une chapelle, eh bien, tout cela, notre communion fraternelle, notre adoration, notre service, notre, en effet, entente, unité, les uns avec les autres, eh bien, si c'est une chapelle, elle doit être propre. Elle doit être véritablement, eh bien, dans ce que toi tu veux qu'elle soit, pour rendre un témoignage lumineux, pour briller comme des flambeaux dans le monde, et que des hommes et des femmes se tournent vers Jésus-Christ pour accepter, eh bien, cette nouvelle vie. Merci, mon Dieu. Bénis ton Église. Donne ta grâce à chacun et à chacune qui veulent aller plus loin. Merci, Seigneur. Amen.